Bonjour à chacune et à chacun. Alors, c'est une introduction que je dois réduire peut-être, je ne sais pas. J'ai de la peine avec la mesure du temps qu'il me faut. Mais on va essayer. Alors, je te remets ce moment, Seigneur. Je te prie que tu nous parles à travers ce que tu as écrit dans ta merveilleuse parole et ce que tu as fait raconter à des hommes qui étaient proches de toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, d'abord un petit survol sur dans l'Ancien Testament, vous avez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Ensuite, vous avez les deux chroniques. Et il y a un lien entre les quatre premières que j'ai citées et les chroniques. D'ailleurs, il est dit que à un moment donné, ces deux chroniques, un et deux chroniques, étaient un seul livre. Alors, les chroniques ont probablement été écrites par Esdras. Esdras qui ramenait un groupe d'exilés de la captivité ou de la déportation, qui ramenait ce peuple en 458 avant Jésus-Christ. Et le but des chroniques, c'était pour reposer un véritable fondement spirituel pour le peuple de Dieu. Et il mettait l'emphase sur l'importance qu'il fallait préserver la pureté, entre guillemets, de la race du peuple de Dieu. La race du point de vue humain, mais la race du peuple et la vie religieuse. L'emphase sur la place réservée à la loi, au temple et à la sacrificature. Et dans Chronique, puisqu'il y a un lien avec les quatre autres livres, il omet de raconter des activités détaillées des rois et des prophètes. Il met plutôt l'accent sur le riche héritage du peuple et la bénédiction qui leur est donnée par rapport à l'alliance avec Dieu. Voilà. Chronique raconte depuis 1 Chronique 10, d'abord, c'est l'histoire d'un seul royaume réunissant les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, dès la fin du règne de Salomon, il y eut une scission et entre le roi Roboam, qui était le premier fils de Salomon, et lui, il lui restait que 2 tribus en tant que roi, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Et Jéroboam, il régnait sur les 10 autres tribus d'Israël, donc les autres fils de Jacob, d'Israël. Et Roboam, seulement dans la filière de David-Salomon, il n'avait que 2 tribus. Donc ça, c'est le tableau. Et maintenant, on va piquer quelques versets, mais je veux vous étonner, je les sors de 1 roi et très peu dans Chronique. En 1 roi 11, on sera beaucoup dans le chapitre 11. Au verset 6, après avoir expliqué ce qu'il a fait à Salomon, « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. » Ça m'a un peu étonné, hein. Salomon, hein, c'est merveilleux. Mais il y est dit, « Fis ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Versets 9 et 10, « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Comme j'ai dit dans Chronique, sur ce passage, c'est comme un détail dont il parle pas dans Chronique. Il parle pas de ce détail sur Salomon, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'est plus question. Et Chronique ne révèle seulement les magnifiques choses qu'il a faites, Salomon, avec par rapport à l'alliance avec Dieu. Et par contre, Salomon a été préavisé d'une correction qui allait tomber sur sa dynastie. Son châtiment arrivera sur la descendance de David après sa mort. Et vous avez pas entendu que parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Qui de nous n'aimerait pas que Dieu nous apparaisse, hein? Qui? Et il a quand même détourné son cœur, hein? C'est donc danger pour chacun. Faisons attention, si, parce que Salomon, on peut dire qu'il a quand même été béni durant sa vie. Et il avait un règne facile. Et il avait les richesses et la sagesse. C'est faisons attention si nous sommes trop bénis et de ne pas détourner notre cœur de Dieu. Rappelons-nous par rapport à ce qui est arrivé à Salomon, mais pas durant sa vie. Hébreux 12, 6 dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Continuons dans 1 Roi 11, le verset 11 et 11 à 13. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. À ton serviteur. Roboam était serviteur de Salomon. Donc, Roboam, il avait rien à voir avec la dynastie de David. Jéroboam n'avait rien à voir avec la dynastie de... Il était serviteur. Et il est devenu roi ensuite de 10 tribus d'Israël. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ce qui me fait dire que là, il y a une prophétie qui est faite à Salomon, qui est désagréable. C'est désagréable de savoir qu'il va déchirer le royaume après sa mort. Ça, c'est un châtiment. Et je veux dire que c'est, il y a des prophéties désagréables. Elles peuvent se réaliser après notre vie, sur nos descendants ou notre entourage, n'est-ce pas? Verset 26, dans le chapitre 1 Roi 11, Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Alors ici, c'est pas le roi Salomon. Il n'a pas levé la main contre le roi Salomon. Il a levé la main contre son fils Roboam. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséruia. Et pour dire que Dieu aussi a parlé à Jéroboam pour que ça arrive. On lit ça dans le verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. » C'est très précis, n'est-ce pas, que ces prophéties qui sont données à deux personnes différentes. Et au roi Salomon, que ça arrivera, et ensuite à celui qui profitera de cela. Verset, on va passer au verset 11-40. 1 Roi 11-40, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. C'était sa réaction à la prophétie. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et s'il voulait faire mourir Jéroboam, il avait quand même compris de la part de Dieu ce qui allait arriver. Il voulait changer le sort. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Si Dieu a décidé quelque chose, ça se passe. Nous lisons par rapport à ça, 2 Chroniques 10, verset 15. Ainsi le roi n'écouta point le peuple. Ça, c'est question de Jéroboam. De Roboam, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Verset 19, dans 2 Chroniques 10, c'est ainsi qu'Israël s'était détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Et je pense par rapport à Salomon, il avait du succès, il avait la prospérité, et Dieu en quelque sorte il dit à ses enfants, et Salomon était un de ses hommes, ne m'oublie pas, il nous dit à nous, ne m'oublie pas, hein? Il nous dit ça, et je crois que c'est excellent ce que Agur a écrit dans Proverbe 30, versets 7 à 8, non 7 à 9. C'est comme ça que nous devrions être, devrions avoir le cœur. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas, on parle à Dieu, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et on peut donc constater dans Chronique, pour y revenir, Dieu ne parlait pas du mal commis par Salomon. On sait que c'était, il avait des femmes et puis c'est d'autres. Il a détourné son cœur de Dieu parce qu'il suivait les dieux de ses femmes. Mais en 2 Chroniques 9, 22, c'est tout de même étonnant, hein, c'est ce qu'il dit sur le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Vous savez, le détail de ses richesses et de sa sagesse sont résumés dans 2 Chroniques 9, 13 à 28. C'est phénoménal ce qu'il y a. Et en fait, c'est, en quelque sorte, c'est le résumé du Salomon en vue du peuple. Mais il avait aussi une facette de cœur. Et vous savez qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et vous connaissez le slogan qui revient très souvent. Tout est vanité, hein? Tout est vanité. Et c'est, notamment au chapitre 2, il donne les détails de ses ces prouesses qu'il a vécues, Salomon. Et quelque part, il les met là au chapitre 2 d'Ecclésiaste pour que nous ne cherchions pas outre mesure ce genre de choses que lui, il a pu avoir. Et que nous ne convoitions pas ces choses, comme vous avez Ecclésiaste 2, vous voyez ce qu'il a fait. Il a eu la joie, il s'est adonné à l'alcool, toutes sortes d'addictions, il s'est attaché, il est parlé de folie, je pense, c'est faire n'importe quoi. Il a fait bâtir des maisons, il a même fait faire des parcs, il a créé probablement des cépages, il a trouvé comment irriguer, c'était grandiose ce qu'on peut attribuer au roi Salomon. Mais, il conclut au verset 2:24, ce qui est important. N'oublions pas, Ecclésiaste 2:24, le plus grand roi de tous les temps qui dit cela, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Et encore une conclusion, il y a 12 chapitres dans Ecclésiaste. Une conclusion en Ecclésiaste 12, 13 ou 15, ça dépend des versions. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen.